Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Écoute, Félix, si tu es un chroniqueur judiciaire qui se respecte, tu dois aimer le film Le Parrain, j'espère.
Bien sûr, bien sûr.
Écoute, moi, c'est ma Bible, c'est mon Coran. Tout ce que j'ai appris de la vie, je l'ai appris dans Le Parrain. Je le regarde religieusement une fois par année. Et là, j'ai toute une nouvelle pour toi. OK? Et regarde bien ça, là. Il va y avoir un film, un long métrage sur le tournage du Parrain avec Jake Gyllenhaal et Oscar Isaac. Le comédien Oscar Isaac va incarner Francis Coppola, le réalisateur. Donc, un long métrage sur les coulisses du tournage du Parrain et une série en 10 épisodes aussi, qui est une autre affaire avec d'autres comédiens aussi. Une série en 10 épisodes sur le tournage du Parrain aussi. Donc, moi, j'en ai jamais assez. Chaque fois qu'il y a un livre sur le Parrain qui sort ou des bonus ou tout ça, je remercie le ciel. Là, il va avoir, écoute, la version, une nouvelle version remontée du Parrain 3 parce que...
Bon, oui, c'est ça, avec une fin différente.
Exactement.
Aussi, hein, c'est ça.
Un début différent, une fin différente. Donc, moi, dès qu'ils sortent une affaire, je suis bien content. Donc, là, un long métrage, une série en 10 épisodes. Super.
C'est un peu Noël, ça, là. C'est un peu Noël pour moi et toi, là, aujourd'hui.
C'est Noël, c'est Noël.
Wow, je suis content d'entendre ça.
Ça va être très le fun. Écoute, donc, 400 victimes de traite de la personne dans les Laurentides, c'est quoi, un réseau de prostitution?
Ben, c'est une étude, en fait, qui est très intéressante. Ça a été rapporté dans le Journal de Montréal par Geneviève Cassie. 400 personnes, et des femmes majoritairement, qui seraient victimes de la traite de personnes juste dans les Laurentides. C'est pour ça que je t'en parle ce matin, parce que c'est un chiffre qui est confiné à une région.
Ben ouais.
Selon une étude qui a été menée par des chercheuses du Cégep de Saint-Jérôme. Les chercheuses du Cégep se sont associées avec un organisme qui s'appelle le Phare des Affranchis, qui lutte contre justement la prostitution, la traite de personnes. Et l'étude, en fait, ce que les chercheurs ont fait, ils ont rencontré 185 représentants des corps policiers, de la Direction de la protection de la jeunesse puis des milieux sociaux communautaires. Alors, en faisant les entrevues avec ces intervenants-là, on a identifié 315 victimes de traite de personnes et 80 cas suspects sur le territoire des Laurentides. Alors, tu vois, ça nous amène à 400 filles.
Ou presque 400.
C'est énorme. C'est énorme. Et puis, pourquoi on apprend ça aussi comme ça aujourd'hui? C'est parce que, par définition même, la prostitution, c'est de nature cachée. La traite de personnes, c'est de nature cachée. On a de la difficulté à avoir les bons chiffres sur les phénomènes parce que c'est clandestin. Parce qu'il y a des filles, dit la chercheuse, qui souffrent en silence, bien sûr. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, par la publication de cette nouvelle-là, on sait maintenant que cet organisme, au moins, travaille à les aider. Et puis, un autre constat aussi, je voulais terminer là-dessus, que la chercheuse estime alarmant, c'est que les gens qui ont été interrogés, donc policiers, socio-communautaires, DPJ, la moitié affirme être mal informés, mal outillés pour intervenir chez les victimes. Puis 50%, 48% pour être juste, n'ont reçu aucune formation ni atelier de sensibilisation sur la traite de personnes.
Seulement pour une région.
Un policier sur deux, là.
Ben oui, seulement pour une région, 400. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, tu sais, à l'époque où justement il y avait un gros problème de prostitution juvénile à Québec, on se souvient, puis il y a eu l'enquête Scorpion après ça. Écoute, moi et Benoît, on va tourner une émission des Francs-Tireurs à Québec. On a des tournages toute la journée. Le soir, on s'en va dans un bar, on fait la fête. On boit un petit peu trop, Benoît et moi. Et là, on prend un taxi pour s'en retourner à l'hôtel. Et là, le chauffeur de taxi nous dit, hey, les gars, ça vous tente-tu d'avoir des filles? Je peux vous amener quelque part. Le chauffeur de taxi nous proposait de nous amener dans un bordel illégal.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mon Dieu.
À Québec, et là, on s'est dit, non, on veut rentrer à notre chambre d'hôtel, se coucher, tu sais. Mais le gars faisait ça. C'était, donc, il y a des chauffeurs de taxi qui étaient impliqués là-dedans. Moi, j'en revenais pas.
Ben, ça prend un réseau, tu sais, les souteneurs, puis ça existe encore aujourd'hui. Peut-être que là, c'est moins gros comme le bras, en fait, là, parce que ce que tu décris, là, c'est quand même, c'est quand même assez énorme. C'est pas discret, disons, mais les souteneurs s'appuient sur des réseaux aussi qui rabattent des clients pour eux. Alors, tu sais, ça arrive souvent, malheureusement.
Ouais, malheureusement. Écoute, je veux absolument, parce que on partage la même fascination pour cette histoire du monolithe dans l'Utah. Moi, j'imagine là, l'artiste qui a fait ça, OK? Parce que j'imagine que c'est un artiste qui a mis un monolithe, puis ça a l'air que... Moi, j'ai entendu parler, ça a l'air que ça fait 5 ans qu'il est là, le monolithe, plusieurs années. T'imagines l'artiste qui a décidé de faire ça, il a sacré le monolithe-là, puis là, lui, c'est son trip. Il en parle pas à personne, tout ça. Là. Il est là, il est chez lui, puis il est content d'avoir fait ça. Puis je trouve ça vraiment hallucinant. Alors, tu veux nous en parler? On a d'autres informations.
Oui, parce que je trouve ça hallucinant aussi, puis parce que je trouve ça et drôle, puis je trouve qu'il y a une vraie démarche dans ça, presque artistique, parce qu'il y a comme ça suscite justement cette curiosité là qui fait les gens s'interroger. Alors donc pour ceux qui ne savaient pas là, il y a un monolithe, on dirait en quasiment en stainless, là, qui a été déposé dans le désert de l'Utah. Ça trônait, si tu veux, en plein désert comme ça. Puis il y avait, on dirait, un anachronisme même, étant donné l'âge de la pierre devant laquelle il était placé, tout ça. Puis donc ça a suscité beaucoup de curiosité, ça fait le tour du monde. Alors c'est qualifié de mystère, cette affaire-là, bien qu'on se doute bien que ce soit un artiste justement qui ait bien pu la placer là. Alors ce fameux monolithe, cette sculpture en métal qui est apparue du jour au lendemain, ben, elle est disparue du désert de l'Utah. Puis, il y a un photographe qui a été interviewé par CNN, qui s'appelle Ross Bernards, qui est spécialisé, lui, c'est un gars qui fait, tu sais, aventure et plein air, disons. Alors, il trouve des endroits intéressants, il se promène à travers les États-Unis, puis là, il a entendu parler du monolithe, puis là, il a décidé de se rendre sur place dans le désert des Mojaves. Puis là, il fait de la randonnée pendant quelques heures. Il arrive sur le site, il passe près d'une heure sur place. Puis là, il regarde la sculpture, puis il regarde ça, gauche, droite, nord, sud, est, ouest. Et il y a des visiteurs. Écoute bien la suite, c'est ça qui est fascinant. Il y a des visiteurs qui arrivent. Là, selon ce qu'ils rapportent, ils étaient 4, je le cite, là. 2 sont restés en arrière, 2 se sont approchés du monolithe. Et on commençait à le pousser un peu. Là, il dit qu'un des hommes qui s'est adressé à lui, au photographe et ses amis, il dit « J'espère que vous avez pris des photos. » Et là, il donne plusieurs poussées sur le monolithe jusqu'à ce qu'il penche, ce qu'il tombe. Les 4 personnes qui étaient avec lui ont pris le monolithe, ils l'ont enlevé, ils l'ont renversé, ils l'ont ramassé. Puis ils disent ben c'est pour ça qu'il faut pas laisser des déchets dans le désert. Ils ont embarqué le monolithe dans un camion, sont partis sans laisser aucune trace. Et lui s'est rendu compte, le photographe Bernards, qui était le seul à avoir vu la disparition du monolithe dont toute la terre parle.
Oui.
Alors tu sais, il y a un coup de maître dans ça, il y a un coup de génie. Et peut-être que je me disais, est-ce que le coup de génie en écouter les propos qui sont rapportés par Bernards, n'a pas été fait par une ONG pro-environnementale qui voulait passer un message sur le fait de pas souiller les déserts avec plein de...
En même temps, c'est un clin d'œil, évidemment, le monolithe au fameux film de Stanley Kubrick, 2001, Le titre de l'espace, oui. Où, dans lequel les extraterrestres envoyaient cet objet-là, qui est un objet qui donnait l'intelligence aux grands singes pour qu'il puisse se transformer en homme. Il y a tout le côté clin d'œil, mais tu sais, je reviens là-dessus, un artiste qui fait une œuvre d'art ou une performance, ben il veut que ça soit vu, tu sais, il va aller dans des galeries, il va exposer dans des musées. Cet artiste-là a fait ça. C'était son secret à lui. Et il s'est dit, peut-être ça va être découvert dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être après que je sois mort, quelqu'un va le découvrir parce que c'était en plein désert. Mais ça le faisait triper, lui, d'imaginer qu'un jour, quelqu'un se promènerait en faisant de la randonnée et tomberait là-dessus. et aurait comme un Christy de choc, et lui, c'était son petit cadeau dans sa tête. C'est vraiment
c'est
spécial.
C'est chouette de voir aussi, on l'a vu plusieurs fois, mais tu sais, je pense à plusieurs artistes qui font des installations, notamment que l'art n'appartient pas qu'au musée, tu sais, que l'art appartient à la ville, l'art appartient à la cité, l'art appartient au désert, à la nature, l'art appartient finalement à tout le monde et à personne. il est où on le voit, tu sais.
C'est vraiment, c'est une histoire absolument passionnante. Il n'y a pas un autre monolithe en Roumanie?
Oui, exactement. T'es bien informé, tu t'aimes ça autant que moi.
Ben oui, j'adore
un autre monolithe en Roumanie, effectivement. Et là, on est en train de se demander que c'est. Mais il s'est aussi volatilisé.
Mais est-ce que c'est le même artiste aussi? On ne sait pas.
Ben, je sais pas, là. C'est ça, là. J'essayais justement de faire des comparaisons ce matin. Puis pour vrai, j'en étais incapable. Alors, tu sais, moi, ça, c'est le genre d'affaires qui peut m'occuper longtemps. Pendant une journée de travail, faut pas que je regarde trop ces trucs-là, ça peut m'occuper longtemps. Justement, j'étais rendu, tu sais, ça m'a amené sur des vieux mystères inexpliqués aussi, sur lesquels moi je trippe encore comme un fou, comme le triangle des Bermudes. Je pense que deux fois par année, je regarde un vieux docu en 4-3 sur le triangle des Bermudes ou les lignes de Nazca ou les statues de l'île de Pâques ou Stonehenge. Franchement, faut pas que je regarde ça trop souvent.
Écoute, tu veux nous parler du producteur de spectacle au casino qui a été soudainement dégommé?
Ben oui, ça c'est Mario Bazinet. Pendant 20 ans, il a organisé des spectacles au cabaret du Casino de Montréal. Bizarrement, après qu'on a commencé à poser des questions à notre bureau d'enquête, ben on s'est rendu compte, le casino s'est comme rendu compte en envoyant son habilitation sécuritaire, parce qu'il doit avoir une habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec pour travailler là, que Mario Bazinet traîne un casier criminel, fraude en 1985, tentative d'extorsion d'un million à la chaîne de restauration Mike's en 1993, 95 amende pour vol, accusation de complot aussi, arrêt des procédures dans ce cas-là, mais on a parlé à Mario Bazinet, c'est drôle, hein? Ça nous soulève encore des questions sur la gouvernance de l'Auto-Québec, parce que pourquoi pendant 20 ans on a toléré quelqu'un qui normalement n'aurait pas rencontré les critères de sécurité? Et ce qui est très accablant pour le casino dans ça, c'est que le casino connaissait le passé criminel de Monsieur Bazinet, qui s'est pas caché avec nous de son passé criminel, qui a joué carte blanche sans mauvais jeu de mots, puis le casino le savait. Donc pourquoi aujourd'hui pourquoi ça marchait avant, pourquoi ça marche plus aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose.
Ben oui, est reconnu coupable, c'est pas rien là, reconnu coupable d'un complot visant à extorquer 1,2 million de dollars à la chaîne de restauration Mike's. Écoute, si le gars il était prêt à extorquer de l'argent à une chaîne de restauration, il était peut-être prêt à piger dans les coffres du casino, à détourner de l'argent, puis tout ça, tu sais, veux dire, un gars comme ça n'aurait jamais eu cet emploi-là.
Mais c'est ça, ça fait 25 ans qu'il a plus affaire à la justice, mais quand même, tu sais, on peut se poser des questions sur la manière dont le casino a géré ça. Juste en terminant, je veux dire que le syndicat des croupiers du casino s'est fendu d'un communiqué de presse sur l'émission de JE en disant qu'elle portait atteinte à l'intégrité des casinos. Ils se sont manifestement mis à plusieurs dizaines de personnes pour envahir mes messageries là, de médias sociaux pour me dire à quel point je suis une merde. Et je trouvais intéressant de répondre. Je vais leur répondre tantôt. Je profite de la chronique pour leur répondre en 30 secondes. Le reportage sur le casino de Montréal ne porte pas sur eux. Mais ils réagissent à quelque chose qui n'existe pas.
Ben oui.
Ils se sentent insultés par quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas été dit. Ils fabriquent donc une réponse qui n'existe pas. C'est court, c'est malhonnête, et je leur répondrai tantôt.
Ben oui, mais ils se fient sur un titre, là, eux autres, puis après ça, ils réagissent. Merci beaucoup, Félix Séguin. Excellente journée.
Au revoir.
Salut, au revoir. On se reparle demain. Félix Séguin du bureau d'enquête.